Comment donc le Nouveau Testament confesse-t-il sa foi en Dieu ? Ou plutôt, quelle est la théologie du Nouveau Testament ? Eh bien, je vais vous dire une chose curieuse. Le Nouveau Testament parle en fait très peu de Dieu. Et il y a peu de choses qui sont dites sur Dieu lui-même. Alors si il y a des qualificatifs, on dit que Dieu est vrai, que Dieu est esprit, que Dieu est bon, qu'il est lumière. On dit que Dieu est fidèle et juste, que Dieu est amour. Mais en fait, le Nouveau Testament simplement considère que Dieu est une sorte de réalité à peu près évidente avec laquelle on a affaire, c'est-à-dire que ça représente la transcendance, l'absolu, et donc voilà, nous avons tous à gérer une certaine dimension de transcendance et d'absolu qui nous dépasse. Et le Nouveau Testament en parle peu, parce que le sujet du Nouveau Testament, c'est plus véritablement Jésus-Christ. Alors oui, c'est bien cela, c'est Jésus finalement. Le Nouveau Testament est très centré sur le Christ, sur ce qu'il est. Et les épîtres de Paul, là, il sera plus question de, non pas de Jésus en tant que personnage historique, mais il sera question du Christ comme une sorte d'entité cosmique et éternelle. Et Paul en particulier insistera sur la notion de résurrection. Et donc, je vous disais, il y a dans le Nouveau Testament une idée implicite, c'est qu'il y a, du Dieu, il y a du spirituel, il y a quelque chose qui nous dépasse et dont nous ne connaissons pas le nom. En ce sens, le Nouveau Testament est dans la lignée de l'Ancien qui prétend, vous savez, que le nom de Dieu est inconnaissable. Donc il y a une réalité qui nous dépasse, mais qu'il y a une voie d'accès qui est Jésus. Et que donc ce christocentrisme, comme l'on dit, n'est pas pour mettre Jésus à la place de Dieu, ou comme si, plutôt que de croire dans un Dieu un peu difficile à croire, il suffisait de croire en Jésus, comme si Jésus était un Dieu visible, parce qu'on en ferait une idole. Eh bien néanmoins, Jésus-Christ est vraiment présenté comme celui qui peut nous permettre de prendre conscience, de comprendre qui est Dieu et ce qu'est cette dimension spirituelle qui nous aspire vers le haut. Puisque j'ai parlé de Nouveau Testament, je le citerai, ne serait-ce que Jean 1, 18, qui résume ce que je vous dis là. « Dieu, personne ne l'a jamais vu, mais le Fils unique qui est dans le sein du Père, c'est-à-dire Jésus, lui, l'a fait connaître. » Et je pense en effet que pour comprendre Dieu, eh bien, il faut passer par Jésus. Voilà. C'est d'ailleurs ce qu'il dit encore, Jésus, en Jean 14, « Je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. » Alors, reprenons au départ. Puisque nous ne pouvons connaître Dieu que par Jésus, que dit-on de Jésus ? Alors là, je vais vous proposer de prêter attention à des mots très faciles à trouver dans le Nouveau Testament et auxquels vous n'avez sans doute jamais pris garde, qui sont les cinq premiers mots de l'Évangile de Marc, c'est-à-dire l'un des plus anciens documents de notre Bible. Et il est écrit cela dans le début. « Commencement de l'Évangile de Jésus-Christ, Fils de Dieu. » Commencement de l'Évangile de Jésus-Christ, Fils de Dieu. Alors prenez garde à ça parce que sous ces mots apparemment anodins, tout l'essentiel est dit. Je vais vous expliquer pourquoi. Le premier mot auquel vous n'avez pas pris garde, c'est Jésus. Dans l'Ancien Testament et dans toute la Bible, quelqu'un qui porte un nom ne le porte jamais au hasard. C'est-à-dire qu'un nom définit toujours la personne. C'est pour ça qu'on n'a pas le droit de connaître le nom de Dieu, sinon on pourrait l'enfermer dans une case. Mais là, Jésus, on connaît son nom, il s'appelle Jésus. Et pour vous, ça ne veut peut-être pas dire grand-chose, mais pour moi, ça veut dire beaucoup. Jésus, ça veut dire, c'est expliqué d'ailleurs au début de Matthieu, c'est un mot hébreu, Yeshua, qui veut dire « Dieu sauve ». Et autrement dit, première confession de foi, cachée là-dedans, c'est que Dieu sauve. Et donc je crois dans un Dieu qui sauve, et que Jésus-Christ nous annonce salut de Dieu. Bon, alors, il faudrait beaucoup de cultes pour vous expliquer tout cela longuement, et je vais faire simplement un résumé de ce qui mériterait, chaque point mériterait une prédication entière. Alors, Dieu nous sauve, question de quoi ? Réponse, par définition, si quelqu'un sauve quelqu'un d'autre, c'est qu'il est sauvé de la mort. Et donc, oui, Dieu nous sauve de la mort. Comment ? Eh bien, non pas physiquement, puisque physiquement, nous mourrons tous, mais Dieu nous sauve de la mort parce qu'en Dieu, nous avons accès à la vie éternelle. Donc, certainement, Jésus-Christ annonce la vie éternelle. Il dit « Vos corps ne sont pas condamnés à la mort, mais il y a en vous quelque chose qui dépasse ce corps et qui est promis à la vie. » Et donc, certainement, Dieu sauve l'humanité parce que cette dimension spirituelle qui est dans l'homme lui confère une dimension transcendante qui va au-delà de la dimension matérielle, visible et animale de son être mammifère et bestial pour être dans une dimension spirituelle qui est éternelle. Et cette dimension éternelle, c'est ça que nous offre Jésus. L'Évangile nous indique le chemin de la vie éternelle, c'est-à-dire de l'essentiel qui a un poids éternel dans nos vies. Donc oui, en Jésus-Christ, Dieu nous sauve. On pourrait dire, peut-être plus pragmatiquement, si votre foi est moins exaltée que la mienne, qu'au minimum, il nous sauve, si ce n'est de la mort physique, au moins, il nous sauve de la peur de la mort. Et c'est déjà pas mal. Et puis après, les siècles et les siècles ont continué de décliner cette idée que Dieu nous sauve ou que l'Évangile nous sauve. On a dit par exemple que Jésus nous sauve de la condamnation du péché. Normalement, étant pécheurs, nous devrions être condamnés. Et Jésus nous annonce le pardon. Et donc je suis gracié, je suis sauvé et cette condamnation du péché ne m'atteint pas, je suis sauvé. D'autres, au moment de la Réforme, en étaient angoissés par l'idée de perdition et par l'enfer. Eh bien oui, on peut dire Jésus ou Dieu par Jésus-Christ nous sauve de l'enfer et de la perdition parce que Dieu nous offre le salut. Donc nous sommes sauvés par grâce, nous sommes accueillis et bienvenus au paradis éternel de Dieu et nous sommes donc sauvés de l'enfer. Et après, le XXe siècle a vécu selon son propre tempérament et les existentialistes, dans les années 70, ont dit la foi et l'Évangile, c'est ce qui nous sauve de l'absurde. Et vous savez, tous ces thèmes de l'absurdité de la vie qui ont été développés par Camus, par Dostoïevski, dans les frères Karamazov, dans Beckett, en attendant Godot, et tous ces gens-là qui démontrent que la vie est absurde et ne mène à rien, et elle mène à rien s'il n'y a pas de foi. Et donc oui, il y a une foi, il y a un sauveur, Jésus-Christ, qui sauve de notre vie de l'absurde. Parce que dans l'Évangile, vous avez un programme qui donne un sens à votre vie, et qui peut sauver votre vie de l'absurde. Et puis aujourd'hui, peut-être que nos contemporains et les plus jeunes, ce qui les menace, ce n'est pas tellement ça, mais c'est la peur de l'avenir. Et tout, aujourd'hui, nous maintient dans un état de peur. On a peur du trou d'ozone, du réchauffement climatique, de la pollution, de la montée des eaux, de la fonte des glaciers, de l'arrivée de l'islam, la disparition des abeilles, je ne sais pas. Enfin, il n'y a pas un jour sans qu'il n'y ait pas un article alarmiste dans nos journaux pour essayer de nous faire peur. Eh bien, l'Évangile nous sauve de la peur. Et il dit, n'ayez pas peur, ayez confiance, parce qu'il y a un Dieu qui vous aime, et même, je dirais, le monde n'est pas abandonné comme une balle qui roule sans but ni objet, mais il y a quelqu'un qui veille dessus, et donc, quoi qu'il arrive, d'abord, il y aura toujours la possibilité d'aimer, de faire des belles choses dans ce monde, et puis je crois aussi que ce monde n'est pas à l'abandon, mais qu'il y a un maître qui veille. Et donc, n'ayez pas peur. Vous savez aussi, je l'ai déjà dit, que la tradition prétend que ce « n'ayez pas peur » qui revient dans toute la Bible se trouve 365 fois dans toute l'Écriture, répartie de l'Ancien jusqu'au Nouveau Testament. Une fois par jour de l'année, la Bible nous dit « n'ayez pas peur ». Donc voilà de quoi Jésus nous sauve. Mais ce nom même de Jésus n'a pas encore révélé tous ses mystères. Je vais vous dire. Parce que Jésus, c'est marrant d'ailleurs, c'est drôle, c'est la seule personne dans toute la Bible qui porte ce nom, c'est curieux. Eh bien non, c'est un artifice dû aux traductions. En fait, le nom de Jésus, Yeshua, était un nom assez courant dans la Bible, et il y a un autre personnage biblique qui porte ce nom. Cet autre personnage, il a été traduit un peu différemment, mais c'est Josué. Josué, c'est le même nom que Jésus. On l'a traduit différemment pour ne pas le mélanger, mais c'est bien le même nom. Et donc Jésus arrive et il s'appelle Josué. Maintenant, cherchez dans vos souvenirs d'école biblique, qu'a fait Josué ? Et alors vous saurez ce que fait Jésus. Josué, c'est le successeur de Moïse. Vous savez, le peuple erre dans le désert, perdu. Et puis Dieu lui a promis, lui a dit « Voilà, je vais te faire entrer dans un pays extraordinaire où coule le lait et le miel. » Moïse, le peuple donc circule dans le désert, il arrive sur le mont Nebo, il voit la terre promise, là Moïse meurt et son successeur Josué prend la succession. Et alors, du désert, il prend la tête du peuple, il va traverser le Jourdain qui va s'écarter comme à la mer Rouge, il traverse le Jourdain et il entre dans la terre promise. Et ainsi, Jésus est le nouveau Josué. Ça se voit d'ailleurs même par le début de l'Évangile. Jésus, avant de prêcher, est dans le désert avec Jean-Baptiste, tiens, comme Josué avec Moïse. Et avant de commencer son ministère, que va-t-il faire ? Eh bien, il va être plongé dans le Jourdain par Jean-Baptiste lors de son baptême. Et donc Jésus, dans le désert, traverse le Jourdain comme Josué, et alors il prêche, c'est-à-dire que Jésus est celui qui nous amène dans la terre promise. Il est celui qui nous guide et qui nous dit « Voilà, vous étiez avant errants et vagabonds dans des déserts d'aridité et de sécheresse, eh bien suivez-moi et moi je vous amène dans la terre promise », c'est-à-dire dans l'accomplissement des promesses de Dieu. Et Jésus nous apporte effectivement dans tous ces dons que Dieu nous propose et nous amène dans le royaume de Dieu, plus d'errance. Et même ce Josué qui succède à Moïse, c'est bien Jésus qui est le successeur de Moïse. Il y avait l'ancienne alliance avec la loi au Sinaï, et maintenant il y a un successeur à ce Moïse, c'est Jésus. Nouvelle alliance, qui n'est plus une alliance d'obéissance à une loi, mais une alliance de grâce et d'amour. Et cela, c'est complété par le deuxième mot. Vous voyez, on n'est pas sorti, j'en ai commenté qu'un pour l'instant, c'est Jésus. Il y en a encore quelques-uns derrière. Le deuxième mot, c'est Jésus-Christ. Alors là, c'est passionnant. Parce que tout le monde croit qu'il s'appelle Jean-Baptiste, comme Jean-Pierre, Jean-Philippe ou Charles-Michel. Non, Christ, ce n'est pas un nom, c'est un titre. Christ, c'est un titre, en fait, c'est un mot grec que les traducteurs ont oublié de traduire. Christ, ça veut dire celui qui a reçu l'onction, qui a reçu de l'huile sur la tête. Voilà. On retrouve l'origine du mot Christ dans ce que les catholiques utilisent, le saint crème qu'on met au moment du baptême, qui est l'huile sainte. Voilà. C-H-R-E, accent circonflexe, M-E. Et donc, Christ, c'est celui qui a reçu l'onction. Celui qui a reçu l'onction, celui qui est oint, en grec ça se dit Christos, et en hébreu ça se dit Machiar, ce qui a été traduit en français par Messie. Et donc Christ et Messie, c'est le même mot en grec et en hébreu. Le Christ veut dire Messie, et en français ça veut dire celui qui est oint, qui a reçu de l'huile qu'on a versée sur sa tête. Alors on n'utilise pas le mot français parce que le mot oint est difficile à dire et à comprendre. Et si on dit à l'Église « Christ est loin de Dieu », on ne comprend plus, on pense qu'il est éloigné, alors que cela veut dire qu'il est celui qui a reçu l'onction de la part de Dieu. Bon, alors, allons-y. Qui recevait l'onction dans l'Ancien Testament ? Trois catégories de personnes, les rois, les prêtres et les prophètes. Et on versait de l'huile sur eux parce que l'huile symbolisait la présence de Dieu, cette présence de Dieu qui est source de lumière, comme dans les lampes à huile, de nourriture parce qu'on mange l'huile, et de vie parce que c'est ce qu'on mettait pour soigner les blessures. Et donc on versait de l'huile sur ceux qui étaient les représentants de Dieu pour dire ils peuvent gouverner au nom de Dieu, recouverts de cette présence de Dieu, où ils peuvent parler au nom de Dieu, comme les prophètes, recouverts de cette présence de Dieu, ou en tant que prêtres, agir comme les représentants de Dieu sur cette terre. Eh bien, Christ, Jésus est Christ, donc il est Messie, ça veut dire qu'il est pour nous roi, prêtre et prophète. Il est le roi que nous servons et qui nous protège, il est le prêtre qui nous met en relation à Dieu, et il est le prophète, et même plus que ça, il est la parole incarnée de Dieu. Mais Jésus n'est pas un Christ parmi d'autres, il est le Christ. Et là, ça renvoie encore à autre chose, c'était l'attente dans le judaïsme de celui qui serait le nouveau roi, le prêtre par excellence, le grand prophète, celui qui viendrait accomplir toutes les promesses de Dieu et nous donner tout ce que Dieu a toujours envisagé de nous donner. Et donc dire que Jésus est le Christ veut dire que c'est celui qui nous offre toutes les promesses de l'accomplissement, tout l'accomplissement des promesses de Dieu. Alors c'est là qu'est le petit différent avec les Juifs, c'est que les Juifs attendent encore aujourd'hui un Messie politique, souvent guerrier, quoi, qui rétablit le royaume politique d'Israël. Alors que Jésus a joué le rôle d'un Messie non pas politique et guerrier, mais d'un Messie à la mode de Ésaïe 53, un serviteur souffrant, un Messie faible politiquement, mais dont les promesses s'accomplissent intérieurement, c'est-à-dire dont les promesses sont accomplies d'un point de vue spirituel. Et ainsi, les Juifs disent que Jésus est un imposteur, parce que dans les promesses de Dieu, il y a la paix. Or, il y a encore des guerres dans le monde, et si Jésus était le Messie, il n'y aurait plus de guerre. Et les chrétiens disent, ça ne veut rien dire, parce que je pense que la promesse de Dieu n'est pas la paix politique, mais la paix intérieure. Et depuis des siècles et des millénaires, je peux dire, avec d'autres, que le Christ donne l'accomplissement de la paix de Dieu dans le cœur de celui qui met sa foi en lui. Et c'est vrai également pour toutes les autres promesses. Et donc, vous disais-je, évangile de Jésus-Christ. Déjà, vous voyez, quelques confessions de foi importantes. Et, suite de la confession de foi, fils de Dieu. Alors, fils de Dieu, j'irai vite là aussi, si vous voulez, ce n'est pas une question de gynécologie ou d'obstétrique. Il est fils de Dieu, fils spirituel, parce que tout ce qu'il tient, il le tient de Dieu. Et c'est d'ailleurs ce que dit Paul dans la lettre aux Romains. Jésus, fils de David selon la chair et fils de Dieu selon l'esprit. Voilà. Et donc il est spirituellement fils de Dieu parce que l'expression fils de dans la Bible veut dire celui qui incarne une réalité. Paul dit, ne soyez pas des fils de colère, mais soyez des fils de miséricorde. Eh bien, le fils de colère, c'est celui qui est l'incarnation de la colère, qui vit par la colère, qui vit de colère, qui est colère, comme on dit en français. Eh bien, le fils de Dieu, c'est celui qui est l'incarnation de Dieu. Ce qui vit en lui, c'est Dieu. Et ce qui le définit le mieux, c'est Dieu. Jésus-Christ, il est fils de Dieu, parce qu'il est l'incarnation même de Dieu. Dieu vit en lui, et la plénitude de Dieu existe en lui. Il est le représentant de Dieu, et il est aussi son serviteur, puisque fils en hébreu comme en français, comme garçon en français veut dire aussi serviteur. Garçon de café, c'est le serviteur. Eh bien, Jésus est le garçon, je dirais, de Dieu. Il est celui qui le sert. Alors me direz-vous, nous aussi, nous sommes enfants de Dieu. Oui, mais nous, on l'est moins. On est enfant par adoption parce que moi, je suis comme vous, un peu fils de Dieu et un peu fils de l'égoïsme, de la jalousie ou du diable même. Mais Jésus, il est pleinement fils de Dieu. Et donc moi, je suis fils de Dieu parce que Dieu me fait la grâce de m'accepter, alors que Jésus l'est pleinement par nature. Voilà, c'était la leçon de théologie du jour, mais qui n'est pas finie, parce que j'ai oublié de commenter peut-être le mot le plus important de cette confession de foi du début de l'Évangile. Le premier mot, Évangile de Jésus-Christ, Fils de Dieu. Évangile, ça c'est terrible, encore un mot qu'on a oublié de traduire. Décidément, tous les mots importants, on a oublié de les traduire, ce qui fait que plus personne ne comprend rien. Jésus, pas traduit, Christ, pas traduit, Fils, bon, il faut expliquer, et Évangile, pas traduit. Évangile, ça veut dire bonne nouvelle. Le E, E-U en grec, c'est un E qui veut dire bon, finalement. Et angelos, c'est l'ange, c'est l'annonce, le témoignage. Et donc, E-angile, c'est la bonne annonce, la bonne proclamation et la bonne nouvelle. Et là aussi, il y a une affirmation, c'est que l'annonce de Jésus, le témoignage du Christ, eh bien, c'est une bonne nouvelle. Et la bonne nouvelle, c'est peut-être ça le plus important, finalement. Avant de savoir qui est Dieu, est-ce que je crois en ceci, en cela, le Dieu architecte, le Dieu créateur, le Dieu... La seule chose dont il faut se souvenir et qu'il faut relever, c'est qu'il s'agit d'une bonne nouvelle. Alors je ne sais pas qui est Dieu, je ne sais pas comment Jésus est fils de Dieu. Ce que je veux savoir, moi, c'est qu'il y a une bonne nouvelle pour vous, une bonne nouvelle. Et cette bonne nouvelle, c'est que vous êtes aimé, que vous êtes pardonné. Cette bonne nouvelle, c'est qu'il y a une espérance, une vie toujours possible. Cette bonne nouvelle, on peut la décliner, comme je l'ai fait tout à l'heure, de mille manières, mais c'est pour de vous dire pour vous, n'ayez pas peur. Et c'est cela d'ailleurs, je crois, que Paul va décliner ensuite. Paul aussi, finalement, parle peu de Dieu, curieusement. Quant à Jésus de Nazareth, il s'en fiche, il n'en dit pas un mot, pratiquement. Très peu. Mais Paul parle du Christ, et pour lui, l'essentiel, c'est la résurrection. Alors, les épîtres de Paul, c'est ça, c'est la bonne nouvelle de la résurrection. Et que la foi en Christ, c'est croire dans le Christ ressuscité. C'est ce qu'il dit au début de Romains, je vous l'ai lu tout à l'heure. Cet évangile, donc cette bonne nouvelle que Dieu avait promis par ses prophètes dans ses Écritures saintes, elle concerne son Fils, issu de la chair de la lignée de David, établi selon l'Esprit, Fils de Dieu, avec puissance, par sa résurrection d'entre les morts. Jésus, Christ, notre Seigneur. Et Paul dira la même chose quand il veut dire l'essentiel en 1 Corinthiens 15. Il dit moi, je vous ai transmis en premier lieu ce que j'avais reçu moi-même. C'est que Christ est mort pour nos péchés selon les Écritures, il a été enseveli et il est ressuscité le troisième jour. Selon les Écritures, il est apparu à Céphas, puis aux 12. Et donc nous avons ça, alors que nous sommes pécheurs, Christ accepte de mourir pour nous. Ça, c'est une image de la grâce. Première chose importante de Paul, la grâce. Nous ne méritons pas tout cela, mais cela nous est offert. Ça, c'est une bonne nouvelle. Et la deuxième bonne nouvelle, c'est qu'il ressuscite. Ça, je m'en fiche un peu. C'est son affaire, mais toute la théologie de Paul, c'est de dire que Jésus, en ressuscitant, nous permet de ressusciter avec lui. Et c'est là où ça m'intéresse. C'est que la résurrection du Christ, c'est l'exemple, le modèle de notre propre résurrection. Et si Christ ressuscite, c'est que nous sommes invités à ressusciter. C'est ce qu'il dit encore dans Romains. Nous avons donc été ensevelis avec lui par le baptême dans sa mort, afin que, comme Christ est ressuscité des morts par la gloire du Père, de même, nous aussi, nous puissions marcher en nouveauté de vie. Voilà. Et donc, la foi dans le Christ, c'est la foi dans une bonne nouvelle, dans un Dieu qui renouvelle, qui ressuscite, un Dieu qui peut relever de toute mort, mais de mort, évidemment, de façon spirituelle, d'un Dieu qui peut nous relever de toute épreuve, de Dieu qui peut nous guérir de toute maladie intérieure et d'un Dieu qui peut nous relever aussi bas que nous soyons tombés Et où que nous soyons enfermés, dans quelque tombeau que nous soyons enfermés, moralement, psychologiquement, spirituellement, Dieu peut nous libérer, nous sortir des mille petites morts qui viennent détruire notre vie et viennent vouloir nous mettre à bas. Dieu nous relève, il nous ressuscite et il nous rend à la vie. C'est un Dieu qui nous ouvre sans cesse un chemin de vie et d'espérance. Pour les morts, parce qu'ils ont la vie éternelle, mais même pour nous, parce que Dieu est une puissance de vie, de joie et de paix. Et ça, c'est, je crois, l'essentiel, cette bonne nouvelle de Paul, qui est également d'ailleurs dans l'évangile de Jean, ce verset peut-être essentiel, qui est la confession de foi que je retiendrai, qui doit être écrite, je pense, quelque part sur les murs. Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. Dieu, en effet, n'a pas envoyé son Fils dans le monde pour qu'il juge le monde, mais pour que le monde soit sauvé par lui. Voilà. Donc finalement, voyez-vous, ça n'est pas si compliqué que ça. Le Nouveau Testament, il croit dans la vie, dans l'amour, dans la grâce. Et je dirais, pas seulement comme un idéal, mais aussi comme un principe actif au bénéfice duquel nous pouvons être. Parce que Dieu, ça n'est pas qu'un idéal philosophique, oui, je crois dans l'amour, dans la grâce, mais de croire qu'il y a une puissance d'amour et de grâce qui est à l'œuvre dans le monde et au bénéfice de laquelle nous pouvons être. Parce que Dieu est actif, Dieu agit dans ce monde, Dieu est créateur encore aujourd'hui dans ce monde. Oui, non pas pour agir comme un Dieu tout-puissant, pour bricoler le cours des choses, parce que le monde a ses propres règles, je dirais, mais comme une puissance qui agite en nous et qui peut nous donner tout ce dont nous avons besoin. Et la foi qui sauve, c'est s'accrocher à cette puissance d'amour, de tendresse et de vie qui nous entraîne pour nous sauver. Et c'est comme dit le Père dans l'évangile de cet enfant qui est mourant et que nous avons lu tout à l'heure, ce Père qui s'adresse à Jésus et qui lui dit « Si tu le peux, sauve mon fils !» Jésus lui dit « Mais si tu le peux, mais c'est pas la question. » Il dit pas ça et il lui dit « Si tu peux, mais tout est possible à celui qui croit. » C'est-à-dire qu'il le renvoie à lui-même. Et il refuse, je dirais, cette foi qui rendrait passif par rapport à un Dieu qui agirait à notre place. Si tout est possible à celui qui croit. Parce qu'en effet, c'est ça l'essentiel. La question de la puissance, c'est pas celle de Dieu, mais du sujet qui, animé à l'intérieur par cette puissance de Dieu, peut faire énormément de choses. Parce qu'avec l'aide de Dieu, on s'accroche, je dirais, par la foi à plus puissant que soi. Et tout le Nouveau Testament, je crois, nous explique ça. Il y a un Dieu qui agit dans le monde. Et souvent, quand je prêche en disant que, à cause, en gros, du problème du mal, j'ai renoncé depuis de nombreuses années à croire dans la toute-puissance de Dieu, comprise au sens enfantin du terme, certains disent « Mais alors, Dieu n'agit plus, il n'est rien ?» Eh bien, je dis « Ça n'est pas vrai. » Parce que Dieu peut faire infiniment, et Dieu est une puissance de vie, d'amour et de transformation dans le monde, qui est d'une puissance infinie, et qu'il est encore plus et d'une façon plus visible dans le fidèle qui accueille cette puissance de Dieu en lui. Et ainsi dit Jésus au Père, tout est possible à celui qui croit, parce qu'il a en lui une puissance de résurrection. Et j'aime cette réponse du Père qui est un oxymore, une contradiction des plus merveilleuses de l'Évangile, parce que peut-être qu'elle résume toute notre vie à nous tous, qu'est ce mélange de foi et de non-foi, mais je dirais que ce que j'aime dans ce texte est que finalement il dit que la foi, c'est de croire dans la foi. Et après, on fait un peu ce qu'on peut. Et en effet, le Père répond à Jésus, « Je crois, Seigneur, viens au secours de mon incrédulité. » Amen.